prologue. En 1634, la Compagnie hollandaise des Indes orientales était la plus riche compagnie de commerce du monde, avec des avant-postes qui allaient de l'Asie au Cap. Le plus rentable d'entre eux était Batavia, d'où l'on expédiait du massis, du poivre, des épices et des soieries à destination d'Amsterdam à bord de sa flotte de galions nommée Indiamen. Le voyage, périlleux au possible, prenait 8 mois. La plupart des océans n'étaient pas cartographiés et les aides à la navigation étaient rudimentaires. Il n'existait qu'une route entre Batavia et Amsterdam et les navires qui s'en éloignaient étaient souvent perdus. Même ceux qui maintenaient le cap demeuraient à la merci des maladies, des tempêtes et des pirates. Nombre de ceux qui embarquaient à Batavia n'atteignaient jamais Amsterdam. Liste des passagers et membres d'équipage notables à bord du Saardam à destination d'Amsterdam, telle que dressée par le chambellan Cornelius Vos. Dignitaire. Gouverneur général Jan Han, son épouse Sarah Wessel et sa fille Lia Jan. Chambellan Cornelius Vos. Capitaine de la garde Jacobi Drecht. Chris Jens et ses fils Marcus et Osbert Peter. Vicomtesse d'Alvain. Passager notable. Prédicant Sander Kers et sa pupille Isabelle. Lieutenant Arendt Eis. Officier supérieur du Saardam. Marchand-chef Renier von Schoten. Capitaine Adrian Crowells. Second Isaac Larm. Membre d'équipage notable. Maître d'équipage Johannes Wick. Gardien de la Sainte-Barbe Frédéric van de Heuval. Le prisonnier Samuel Pipps. Chapitre 1. Arendt Eis hurla de douleur lorsqu'une pierre frappa son dos énorme. Une autre siffla près de son oreille. Une troisième l'atteignit au genou et le fit trébucher, déclenchant les railleries de la foule impitoyable qui cherchait déjà sur le sol d'autres projectiles. Ils étaient des centaines à être retenus par la garde de la ville, leurs lèvres écumantes rugissant des insultes, leurs yeux noirs de malveillance. « Par pitié, abritez-vous !» implora Samuel Pipps par-dessus le vacarme, ses menottes scintillant à la lumière, tandis qu'il titubait sur le sol poussiéreux. « C'est à moi qu'ils en veulent !» Arendt était 2 fois plus grand et 1 fois et demie plus large que la plupart des hommes à Batavia, y compris Pipps. Bien qu'il ne fût pas lui-même prisonnier, il plaça son corps massif entre la foule et son ami beaucoup plus petit, ne leur offrant qu'une minuscule portion de cible à viser. L'ours et le moineau, ainsi qu'on les avait surnommés avant la chute de Samy. Jamais cela n'avait semblé plus vrai. Pipps était en train d'être transféré d'un cachot au port où un navire attendait de le transporter à Amsterdam. 4 mousquetaires les escortaient, mais ils gardaient leur distance, craignant de devenir à leur tour des cibles. « Vous me payez pour que je vous protège !» gronda Arendt en essuyant la sueur poussiéreuse dans ses yeux tout en tentant d'évaluer la distance qu'il leur restait à parcourir avant d'être en sécurité.
« Je continuerai de le faire jusqu'à mon dernier souffle. »
Le port était situé derrière d'immenses portes à l'autre bout du boulevard central de Batavia. Dès qu'elles se refermeraient derrière eux, ils seraient hors de portée de la foule. Malheureusement, ils se trouvaient à l'arrière d'une longue procession qui avançait lentement dans la chaleur. Les portes ne semblaient guère plus proches que quand ils avaient quitté la moiteur du cachot à midi. Une pierre frappa le sol au pied d'Arendt, souillant ses bottes de terre séchées. Une autre ricocha sur les chaînes de Samy. Des marchands les vendaient par sac et en tiraient un beau profit.
« Satané Batavia !» grommela Arendt. « Ces crapules ne supportent pas d'avoir les poches vides !»
En temps normal, ces gens auraient dépensé leur argent chez les boulangers, tailleurs, cordonniers, relieurs et autres ciriers qui bordaient le boulevard. Ils auraient souri et ri, se plaignant de la chaleur infernale. Mais menotter un homme, offrez-le au tourment, et même l'âme la plus douce s'abandonne au diable.
« C'est mon sang qu'ils veulent voir couler !»
protesta Samy en tentant de repousser Arendt.
« Mettez-vous à l'abri, je vous en supplie !»
Arendt baissa les yeux vers son ami terrifié dont les mains appuyaient en vain sur sa poitrine. Ses boucles sombres étaient collées à son front, ses pommettes hautes gonflées et violacées à cause des coups reçus en prison. Ses yeux marrons, habituellement pleins de malice, étaient écarquillés et désespérés. Mais même maltraité, ce saligaud était beau. Par contraste, Arendt avait le crâne rasé et le nez aplati. Quelqu'un lui avait arraché avec les dents un morceau de l'oreille droite lors d'une bagarre et des coups de fouet maladroits quelques années plus tôt lui avaient laissé une cicatrice sur le menton et le cou.
« Nous serons à l'abri quand nous aurons atteint le quai !»
déclara obstinément Arendt, forcé de hausser la voix tandis que des cris s'élevaient devant eux. La procession était menée par le gouverneur général Jan Hahn, droit sur un étalon blanc, un plastron fixé à son pourpoint, une épée cliquetant à sa taille. 13 ans plus tôt, il avait acheté le village qui s'était trouvé là, au nom de la Compagnie hollandaise des Indes orientales. Mais dès que les indigènes avaient signé le contrat, il y avait mis le feu, se servant des cendres pour esquisser les routes, les canaux et les bâtiments de la ville qui le remplaceraient. Batavia était désormais l'avant-poste le plus rentable de la compagnie et Jan Hahn avait été rappelé à Amsterdam pour rejoindre ses instances dirigeantes, les énigmatiques Gentleman 17. Tandis que son étalon trottinait sur le boulevard, la foule pleurait et l'acclamait, tendant les doigts vers lui, essayant de lui toucher les jambes. On lui jetait des fleurs, on lui adressait des bénédictions. Il ignorait tout cela, gardant le menton levé et les yeux fixés droit devant lui. Avec son nez crochu et sa tête chauve, on aurait dit un faucon juché sur un cheval. 4 esclaves pantelants peinaient à suivre son allure. Ils portaient un palanquin doré à l'intérieur duquel se trouvaient l'épouse et la fille du gouverneur, tandis qu'une femme de chambre au visage rougi se hâtait à ses côtés tout en s'éventant dans la chaleur. Derrière eux, 4 mousquetaires aux jambes arquées agrippaient les coins d'une lourde boîte qui contenait la folie. De la sueur perlait sur leur front et leurs mains moites rendaient la prise difficile. Ils glissaient fréquemment, l'angoisse apparaissant soudain sur leur visage. Ils savaient quel serait le châtiment si le précieux bien du gouverneur venait à être endommagé. À leur suite marchait un groupe de courtisans et de flagorneurs, d'employés haut placés et de favoris de la famille. Leurs années de manigance récompensées par l'opportunité de passer un après-midi pénible à regarder le gouverneur général quitter Batavia. Distrait par ces observations, Arendt laissa un espace se creuser entre lui et l'homme dont il avait la charge. Une pierre passa en sifflant et atteignit Samy à la joue, faisant couler un filet de sang et déclenchant les moqueries de la foule. Arendt perdit son calme. Il ramassa la pierre et la jeta sur l'homme qui l'avait lancée, l'atteignant à l'épaule et le projetant au sol. La foule scandalisée se mit à hurler et se rua sur les gardes qui peinèrent à la contenir. « Joli lancé !» murmura Samy d'un ton admiratif, baissant la tête tandis que d'autres pierres pleuvaient autour d'eux. Lorsqu'ils atteignirent le quai, Arendt boitait et son énorme corps le faisait souffrir. Malgré quelques bleus, Samy était à peu près indemne. Il poussa néanmoins un cri de soulagement lorsque les portes s'ouvrirent en grand devant eux. De l'autre côté se trouvait un dédale de caisses et de cordes enroulées, de barriques empilées et de paniers en osier dans lesquels braillaient des poulets. Des cochons et des vaches les observèrent d'un air lugubre, tandis que des débardeurs hurlaient en plaçant les chargements sur des canots qui dodelinaient sur l'eau afin de les transporter vers les galions ancrés dans le port chatoyant. Voiles ferlées et mâts dénudés, les Indiamen ressemblaient à des scarabées morts avec les pattes en l'air, mais chacun aurait bientôt à son bord plus de 300 passagers et membres d'équipage. Les gens agitaient leurs bourses en direction des canotiers qui allaient et venaient, poussant vers l'avant quand le nom de leur navire était appelé. Des enfants jouaient à cache-cache parmi les caisses ou bien agrippaient les jupes de leur mère pendant que leur père scrutait le ciel d'un œil noir, tentant de chasser l'occasionnel nuage du ciel d'un bleu implacable.